All right, 88-971-1021. Est-ce qu'on a donné les billets pour Cypress Hill?
Est-ce que je les ai donnés? J'ai-tu fait le gagnant? Je pense que oui. Hein, okay. Oui, c'est Sébastien Labonté. C'est toi, la personne la
donc,
plus...
conspirationniste
de la station, Yann.
En fait, c'est parce que je suis un douteux, moi.
J'aime oui, mais tu, ça, douteux. Mon Dieu, tu remets tout en question tout le temps, c'en est tannant. Là.
Exact. Mais je suis un gars comme ça.
C'est correct, on peut dire que tu prends le temps de t'informer.
Il y a Guylaine Tremblay, la chanteuse country, là,
ouais.
qui avait déjà dit à heure de grande écoute à la télé, « Moi, j'aime ça que le gouvernement pense à ma place. Comme ça, ça m'empêche de réfléchir. »
Oh, mon Dieu.
Moi, c'est plus le contraire. Je préfère penser en premier. Puis après ça, ben, me dire si le gouvernement, ce qu'il est en train de mettre en place, ça a du bon sens ou ça ne l'a pas. Puis des fois, le constater. Puis ça, tu sais quoi? Ça se peut qu'on se trompe aussi.
Absolument.
De penser que le gouvernement s'en va là. Puis, ah, c'est pas le bon chemin. Finalement, ça
là,
fonctionne.
Tu me parles. Guylaine Tremblay est comédienne. Hein?
Guylaine, c'est la. Il y a une chanteuse. Comment?
Mara Tremblay.
Non,
Mara.
Non, c'est pas elle. C'est vraiment Guylaine quelque chose. Puis elle avait dit.
Elle est chanteuse country.
Chanteuse country.
C'est intéressant.
Voilà, très intéressant. Donc, 418-971-1021, si vous avez quoi que ce soit à nous dire, nous autres, on passe à notre prochain invité, qui est un gars qu'on a reçu il y a de ça quelques mois, que j'avais trouvé franchement intéressant. C'est Yannick Dufresne, qui est prof à l'Université Laval, dans la faculté de sciences sociales. Et il a été fondateur de plusieurs petits trucs qui peuvent vous aider au quotidien à faire votre choix si il y a des élections provinciales, fédérales, peut-être même municipales. On en parlera avec Yannick. Il est le fondateur, entre autres, de la fameuse boussole électorale qui, moi, m'a grandement aidé à faire des choix au courant des dernières années. Je suis très content de t'accueillir une deuxième fois, Yannick. Salut!
Mais merci de l'invitation.
T'es tout le temps occupé, t'as tout le temps des idées. Comment tu fais pour travailler puis enseigner à tes élèves?
C'est une très bonne question, mais pour vrai, tu sais, je pourrais faire des blagues de dire que je dors pas, c'est pas vrai. Là, j'arrête ça, là, je suis rendu mature maintenant.
Deux jumelles à la maison, le matin.
Non, c'est ça, j'arrête ça. Là. Mais tu sais, au début de ma carrière, c'était justement, tu sais, je travaillais énormément, beaucoup, quand j'étais étudiant au doctorat.
Ouais.
On était comme une gang de crackpots un peu à l'Université de Toronto quand on a créé la boussole électorale. Mais en ce moment, j'ai fusionné les deux, je pourrais dire. Tu sais, je suis titulaire d'une chaire de leadership en enseignement des sciences sociales numériques. Donc,
ouais.
Tu sais, ça forme les étudiants au numérique, les gens en sciences sociales, ça leur apprend à programmer à l'Université Laval. Fait que beaucoup de mes projets qui ont découlé de la boussole électorale, je les ai créés dans le cadre universitaire avec toute une équipe d'étudiants autour de moi. Donc, je ne suis pas tout seul là-dedans.
Yannick, la boussole électorale, c'était venu comment? Bon, vous étiez des étudiants. Est-ce que vous aviez constaté qu'il y avait un manque quelque part? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit « on va créer la fameuse boussole électorale qu'on connaît à Radio-Canada ».
L'idée est arrivée comme en 2011, ça fait déjà longtemps. Là. Puis c'était vraiment d'essayer de stimuler le vote des jeunes. C'était vraiment ça au départ. On disait « OK, il y a une apathie des élections, il y a un manque de sophistication politique chez les jeunes. Comment on peut attirer leur attention ?» Puis là, c'était comme le web 2.0
ouais.
interactif. Puis on a décidé de faire ça. Mais finalement, quand on le fait, à notre grande surprise, on a eu 2 millions d'utilisateurs. On s'est rendu compte que ça n'allait pas juste chercher les jeunes. Là.
Mais moi, c'est quelque chose de positif à mes oreilles quand j'entends qu'il y a 2 millions de personnes qui ont été voir la boussole électorale. Parce que, tu sais, des fois, tu peux penser que tu es rouge ou tu es bleu. Puis après ça, tu entends la patente à Yannick Dufresne qui a inventé avec ses chums la fameuse boussole électorale. Tu te dis, crème, moi, allez voir si je suis vraiment bleu ou si je suis vraiment rouge. Je tape mes affaires, je réponds aux questions, puis finalement, je suis pas à la place que je pensais.
Mais c'est parce qu'on est influencé socialement
ben oui.
par les sorties de tous les jours.
Oui.
Puis, mais ça veut pas nécessairement dire que ça concorde avec tes valeurs du quotidien.
Tu connais pas nécessairement le programme de tous les partis.
Ben non.
Non, exactement. Puis je dis comme. Puis ça, c'est la littérature. Puis là, c'est le prof qui parle sur le vote. Qu'est-ce qui explique le vote? Les gens votent très peu sur leur position, sur les enjeux. Puis ça, nous, on pense que c'est ça, parce que la démocratie classique, c'est ça. Les
ouais.
gens raisonnent, ben, les partis politiques proposent des trucs, mais souvent, les gens vont voter plus par tradition partisane, comment que leurs parents votaient.
Ah, des fois, c'était par famille.
Exactement.
Ma famille a toujours été rouge, j'ai toujours voté rouge. Ma famille a toujours été bleue, j'ai toujours voté bleu.
Bien, moi, je vais t'avouer que les réseaux sociaux vont venir faire une différence. Les sorties médiatiques, tu sais, tout ce qu'on voit sur Carnet dans les derniers jours, son manque au niveau du français, c'est flop ici. Ici et là, bien, ça impacte, que je le veuille ou non, ma pensée par rapport au Parti libéral. Puis là, tout d'un coup, bien, je commence à m'intéresser, mettons, aux conservateurs. Pourtant, c'est pas naturel chez moi. Mais tu sais, je trouve ça intéressant parce qu'il y a le social, puis il y a tes valeurs, justement, puis tes principes de base. Puis je me rends compte qu'avec les enjeux qu'il y a, bien, ça peut peut faire une différence. Tu sais, en ce moment, on cherche quelqu'un, par exemple, au Canada pour, je vais dire, défier Trump pour les quatre prochaines années. Et on oublie les autres partis, on se concentre sur les conservateurs puis les libéraux, c'est les deux têtes en ce moment, on s'entend, là. Puis les gens vont voter pour cet enjeu-là et pas nécessairement pour ce que les partis vont proposer.
C'est difficile, Yannick, parce que tout est teinté. On lit les journaux, c'est teinté. Oui. On écoute la radio, c'est teinté. On écoute la télé, le grand journal, les grands journalistes, les éditorialistes, tout est teinté. Tandis que quand on va sur la boussole électorale, ça ne l'est pas pantoute.
C'est ça. Puis on essaie de le faire. On a une rigueur académique hein, derrière ça. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Il y a beaucoup, beaucoup de recherches qui sont faites sur chacune des positions des partis politiques. On implique les partis politiques aussi. On leur montre. Là, on leur dit, si vous trouvez qu'on vous a mal positionné, dites-nous-le. Donc, tout ça, c'est vraiment... C'est l'idée de donner le plus de transparence possible. Mais en même temps, Audrey, tu mentionnais, on vote pour différentes raisons. Il ne faut pas dire qu'il faut juste voter pour les enjeux non plus. C'est ça, on veut rajouter ce mix-là qui est peut-être un petit peu plus complexe, de le vulgariser pour que tout le monde puisse l'utiliser un peu mieux. Mais après ça, il y a plein d'autres raisons. Même si tu es très, très proche d'un parti sur les enjeux, il y a plein de raisons pour ne pas voter pour ce parti-là, là, pour des raisons stratégiques, pour des raisons que tu ne les trosses pas, là, tout simplement.
Ouais, il y a ça. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont regarder le visage de la personne sur la pancarte. Y a-tu de l'air fin? Y a pas de l'air fin? Y a une gueule de crosseur? Y a de l'air d'un gars sympathique? Ils vont voter pour cette personne-là. Il y en a d'autres qui vont dire: ah, ben, c'est qui le chef de ce parti-là? Ah, tiens, c'est Mark Carney ou tiens, c'est Pierre Poilievre. Ouais, moi, je ferais plus confiance à un ou à l'autre. Fait que, tu sais, ils font abstraction du visage qui est là, qui est le député de l'endroit, puis ils vont dire: moi, je vote pour le chef. C'est arrivé avec Jack Layton, si tu te souviens bien. Je veux dire, tout le monde voulait être l'ami de Jack Layton. Ouais. Fait qu'il y a des gens qui n'avaient jamais fait de campagne électorale. Une qui s'était, à Québec, sans la nommer, là, elle voulait s'inscrire comme bénévole pour le NPD. Elle a été élue députée. Je veux dire, je pense que dans le temps, elle voulait être bénévole. Elle s'est ramassée avec une job de 160-170 000 par année à l'époque. Puis l'autre était dans un party dans le sud. Elle était barmaid. Puis elle a été élue. Je veux dire, mais les gens votaient pour... Ils votaient pas pour la personne qui était sur la pancarte. Ils votaient pour le chef. Fait qu'il y a plusieurs...
Il y a plein de raisons. En fait, j'ai le goût de la poser, Yannick, la question socialement, qu'est-ce qui influence notre futur vote?
Mais la littérature, c'est vraiment les variables sociodémographiques en premier, là. Qui on est. Là, la littérature classique, là, dans les années 40-50, les premiers sondages ont montré que, justement, les gens ne raisonnaient pas beaucoup, il y avait beaucoup un manque d'informations politiques, puis que les gens, ils disaient, en anglais, là, you are where you sit. C'est l'idée de dire, vous êtes qui vous êtes en ce moment. Là. L'idée que je suis un homme blanc, né dans les années 80, dans une région du nord de Montréal, mais va déterminer énormément qui je suis. T'sais, puis là, on va se faire socialiser par nos parents, on va se faire socialiser par les valeurs autour de nous. Puis juste en prenant ça, ces différentes variables-là, on est capable de prédire le vote de beaucoup de gens, on est capable d'aller de savoir beaucoup de leurs idées.
Ouais. Après ça, vous avez inventé le
Datagotchi
avec une de tes étudiantes qui, là, cet appareil-là t'aide à réfléchir.
Ouais, c'est justement, je faisais le pont avec ça parce que je me disais, la boussole électorale, ça a été un franc succès, là, un immense succès. Je peux même dire que ça a pavé pour beaucoup de ma carrière.
C'est ça qui t'a rendu milliardaire?
Exactement.
Oui, c'est ça.
Multimillionnaire. mais souvent, les gens venaient me voir et me disaient: Yannick, tu as mal prédit mon vote. Puis je disais: mais le but de la boussole électorale n'est pas de prédire votre vote. Pas du tout ça. C'est pour donner justement un mix de pouvoir donner où est-ce que vous situez. Un peu donner de l'information transparente sur la position, sur les enjeux. Si je voulais prédire ton vote, peut-être que j'aurais même pas besoin de te poser une seule question sur tes idées politiques. Puis c'est de là à germer un peu l'idée de Datagotchi, de dire: ah, on va faire un sondage encore plus ludique où est-ce que les gens vont pouvoir répondre à des questions, on va pouvoir voir un bonhomme apparaître, les gens vont se construire eux-mêmes, puis on va pas poser aucune question. Où est-ce qu'ils achètent leur café, leur voyage cinématographique, ou c'est quoi leur musique préférée, leur film préféré, puis on va essayer de prédire leur vote. C'était ça un peu l'idée, c'est de dire à quel point est-ce que vous êtes prévisible ou non. Puis c'était vraiment ça le but de Datagotchi, mais en même temps, là, ça a l'air très ludique, ça a l'air comme d'un jeu, mais en même temps, c'est exactement le genre d'information qui est utilisé par les partis politiques pour faire de la segmentation électorale, du ciblage électoral dans le marketing politique. Donc on se dit, en même temps, on sensibilise les gens à la qualité, à la richesse des données qui nous paraissent un peu superflues, là.
Puis ça, tout le monde peut y avoir accès au fameux Datagotchi.
Oui, vous pouvez aller sur datagotchi.com, puis il y a un lien directement vers l'application.
Maintenant, un autre de tes projets, Radar Plus, je le trouve intéressant, celui-là, parle-moi-en.
Radar Plus, c'est justement... L'idée a germé du fait que moi, j'ai habité longtemps en Ontario, j'ai fait mon doctorat à l'Université de Toronto, puis je regardais beaucoup les médias anglophones, les médias francophones, puis des fois, il y avait une convergence, des fois, on parlait de deux... C'était deux univers comment différents.
Ah, ouais.
Ça, les deux solitudes. Puis que moi, j'ai gardé le réflexe d'aller voir tout le temps qu'est-ce qui se passe dans les différents journaux, dans les différentes revues, puis là, je me disais, on ferait automatiser ça. Quand on a commencé à mettre des censures, puis d'aller chercher automatiquement à chaque 10 minutes, sur chacun des 13 médias canadiens, les unes. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui met en une? Parce que des fois, la nouvelle est là, mais elle est en dixième.
Les unes sur Internet. Là.
Les unes sur Internet.
OK, je comprends.
Puis là, c'est pour aller mesurer qu'est-ce qu'on appelle la science, l'importance accordée à des enjeux. Puis là, on est allé chercher, puis là, on structure ça depuis des années. En 2019 qu'on a commencé à faire ça durant la campagne fédérale. Mais là, maintenant, avec l'IA, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable d'aller chercher tout ça, puis on est capable de le traiter. On appelle ça des pipelines de données. Là. On fait des pipelines, on stocke les données, on les structure, on fait des pipelines. Après ça, au bout, là, comme une machine à saucisse, là, on met un embout de l'IA, puis on est capable de résumer la une des unes. Tu sais, c'est quoi de toute la journée, c'est quoi la une des unes au Canada anglais, puis hors Québec, puis au Québec. Puis on a même un peu aux États-Unis, puis qu'on est capable de le faire aux États-Unis. Puis là, à partir d'hier, on a commencé à mettre ça sur nos médias sociaux, à chaque jour, la une des unes qui résume avec l'IA tout ce qui s'est passé dans les médias, les 13 médias canadiens.
C'est une bonne façon de t'informer de façon rapide, le veux-veux pas.
C'est ça l'idée, c'est ça l'idée aussi. Puis c'est de voir à quel point est-ce qu'il y a une convergence, à quel point il y a une divergence dans les médias, mais aussi entre le Québec et le reste du pays.
Ouais, c'est quoi les grosses différences? Parce que tu disais, je comparais les journaux du Québec versus les journaux en Ontario, puis c'était deux solitudes. C'est quoi les différences les plus marquées? Parce que moi, j'aime bien faire le test avec des gens qui proviennent de d'autres pays, mais c'est rare que j'ai la chance de jaser avec des gens qui proviennent de l'Ouest canadien, puis je leur dis « Hey, vous autres, de quoi on parle régulièrement dans les journaux? » Toi, qu'est-ce que tu avais constaté?
Un fuck. Vraiment quelque chose que moi, j'ai enseigné la politique canadienne à Toronto puis à Québec. Puis je suis capable de voir la grande distinction. Puis ça se reflète beaucoup dans les médias. Quelque chose de plus général, là, ça, je ne vois pas dans les enjeux précis, c'est qu'un focus beaucoup plus sur la politique fédérale dans le reste du pays. Si on demande à des jeunes en sciences politiques de nous nommer les ministres fédéraux, là, au Canada anglais, ils sont capables de tous les nommer là, un après l'autre. Si on leur demande c'est qui les ministres provinciaux à Queen's Park, en Ontario, ouf!
Ah oui, ils ont plus de difficultés.
Oui, un petit peu plus de difficultés. Alors qu'à Québec, c'est un peu la différence. Là, mes étudiants n'aimeront pas ce que je vais dire. Mais des fois, il faut que je les fouette un peu pour faire une campagne fédérale. Quand c'est une campagne provinciale, il y a un intérêt. Les médias québécois, on focus beaucoup plus sur la politique provinciale que fédérale.
Est-ce qu'on est handicapé par la langue?
Je ne sais pas si c'est un handicap de la langue, mais c'est un intérêt. Puis je pense qu'il y a un effet structurant de la langue. Hein? Donc oui, ça se passe tout en français. On a les médias ici, on l'a à côté, c'est à Québec. Fait qu'il y a un peu de ça, c'est certain. Puis les médias, vous le savez plus que moi, là, on donne ce que les gens veulent entendre. Les gens veulent entendre plus de Québec, mais on parle de plus de Québec.
Il faut qu'il y ait une proximité, mais tu vois, mon opinion là-dessus, c'est qu'on connaît à Québec nos propres députés fédéraux. Pour certains, Jean-Yves Duclos était ministre. Donc, on savait qu'il était ministre au fédéral. Mais bien honnêtement, dans les dernières années, il y a eu des ministres qui se sont succédés dans l'Ouest canadien, Yannick, puis tu nous dis finalement il a démissionné. C'est un crime, je n'ai jamais entendu parler. Puis peut-être en raison de la langue puis du choix éditorial aussi de la part de nos journalistes au Québec qui disent « Regarde, je veux dire, il n'a pas pris nécessairement de décision à quoi ça soit de couvrir à tous les jours. » Tandis que Jean-Yves Duclos était dans notre quotidien. Fait que c'est pour ça qu'on le connaît peut-être un peu plus.
Oui, puis je suis politologue, faites-moi pas le quiz sur les ministres fédéraux non plus. C'est complexe. Puis, tu sais, quelque chose d'intéressant là-dessus, là, je dérive un petit peu, mais il y a eu des sondages qui ont été faits, des études électorales canadiennes, qui est le sondage le plus important sur les campagnes. Puis moi, ça m'avait fasciné. Là, j'avais vraiment, sur ma thèse de doctorat, j'avais beaucoup travaillé avec ce sondage-là. Puis il y avait une question sur quel est le palier de gouvernement qui est plus en charge de la santé, de l'éducation, tu sais, des trucs vraiment clairement provinciaux. Au Québec, là, tu sais, c'était 80%, je ne m'en rappelle plus, là, comme 70-80% qui disaient, ben, provincial.
Ouais. Il y a des petites colles, des fois, sur l'immigration.
C'est ça.
Là, c'est-tu le fédéral ou provincial?
Ça, c'est partagé, de toute façon. C'est officiellement partagé. Mais, tu sais, l'éducation-santé, en tout cas, il y a plein de technicalités, là, je vous reviendrai juste pour parler de ça, si vous voulez, là. Mais ça reste quand même que c'est dans notre fédération assez associée aux provinces. Ouais. Il y avait 51 ou 52% des Canadiens anglais qui avaient nommé dans le sondage que c'est le fédéral. Que, des fois, là, on parle des fois dans une campagne, on essaie d'évaluer pourquoi le NPD, par exemple, qui promet des trucs sur dans les juridictions provinciales. On se dit, mais pourquoi il fait ça? Jacques Layton l'avait bien compris. C'est pour ça qu'il disait, on va respecter ça. Mais dans le reste du Canada, ça fait du sens ça, de parler de cette façon-là.
Oui, mais c'est comme c'est hier ou avant-hier, tu sais, bâtir Maison Canada.
Et tabarnak. Il dit téléphone maison.
C'est comme ici, là, qu'est-ce qu'il va faire, là, le fédéral, bâtir Maison Canada? Je comprends pas. Il y en a plusieurs qui disaient ben c'est municipal puis provincial, mais le fédéral peut s'en mêler aussi une fois de
finalement,
temps
c'est
en temps.
Maison Canada. On a raccourci ça un peu.
mais vous voyez, parler de ça, parce que tout à l'heure, j'ai dit il y a quelque chose de plus général sur l'intérêt sur le fédéral plutôt que provincial, mais dans des enjeux spécifiques. Quand ça touche la langue, là, c'est deux mondes. Là, puis, je peux même dire que c'est ça qui a donné le coup d'envoi de Radar Plus. Ça a été la fois où il y avait une ministre, son nom m'échappe, une députée ontarienne, franco-ontarienne, qui avait démissionné après l'élection de Ford dans son premier mandat sur une question de principe, parce qu'il voulait couper les fonds à l'Université francophone de Toronto. Puis elle avait démissionné, c'était la première, la une de tous les journaux francophones. Puis moi, j'ai cherché dans les...
C'est rien.
En Ontario, là, c'est pas au Québec, là, tu sais, en Ontario. Puis j'ai cherché, puis je l'ai trouvé, je pense, dans le National Post, en 7e nouvelle. Là. Puis là, c'est là, je me suis dit, hey, c'est important, là, qu'est-ce qui vient en avant. Puis donc, les questions linguistiques, tout ce qu'on parle, justement, le truc de
bâtir maison,
le truc sur la loi 96, tout ça, dans le reste du Canada, on en parle très, très peu. Ouais.
Puis les sites de nouvelles aussi qui ont été bâtis avec les gens qui, à chaque fois que les gens allaient consulter la nouvelle, bon, ben tu comprends que là, ce que j'ai compris des journalistes qui travaillent à Québec, là, c'est qu'eux, il y avait un tableau virtuel, puis là, ils voyaient leur nouvelle évoluer, monter en grade à partir du moment où c'était la nouvelle la plus consultée. Bien, elle montait, puis tout d'un coup, pouf, elle apparaissait dès que tu allais sur le site, exemple, du Journal de Québec. Fait que c'était stressant pour le journaliste. En même temps, lui, il essayait de choisir... Tu sais, il y a une compétition. Mm-hmm. Il essayait de choisir des titres avec le titreur, puis des articles qui allaient toucher les gens, qui allaient faire en sorte que... Tu sais, si tu vas sur le site, tu vois ça, juste la petite ligne de côté. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Tu cliques là-dessus, puis lui, il monte en grade sa nouvelle.
Mais vous savez quoi? À partir des prochains jours, on avait fait quelque chose en 2019 qui revient. On appelait ça le roi de la une ou la reine de la une.
Ouais.
Puis parce que nous, vu qu'on va chercher les unes, on sait combien de minutes qui durent. Puis là, après ça, on tag les journalistes, c'est qui, puis c'est un podium, puis c'est qui le premier, qui a la couronne, puis la médaille d'argent, puis la médaille de bronze, qui a resté le plus longtemps en une durant la journée. Donc, ça s'en vient dans les prochains jours aussi.
Oui, puis ça, j'imagine que le journaliste doit faire équipe avec le titreur aussi, puis le photographe. Ouais, là. Il faut que tu aies le meilleur titre, la meilleure photo, puis le meilleur sujet. OK, donc ça, c'est Radar Plus. Maintenant, il nous en reste deux à jaser. Agora Plus puis Polymètre. Avec Audrey, tantôt, on a regardé le Polymètre puis on s'est dit pourquoi nous autres, en tant que personne qui travaille dans les médias, on consulte pas ça chaque jour. Fait que tu nous en parles.
Je l'ai envoyé aux collègues.
Mais Agora Plus, qu'est-ce que c'est exactement?
Agora Plus, c'est un peu comme le petit frère ou la petite sœur de Radar Plus. On va chercher des données de manière automatique, on les structure, mais là, cette fois-ci, plutôt que d'être sur les médias, c'est chez les décideurs. Donc, ça a commencé durant la pandémie, puis on allait chercher toutes les conférences de presse, ça, on les prend, qu'il y a eu dans le temps avec Arruda, le premier ministre, puis on les structure, puis on en faisait l'analyse automatique pour montrer c'était quoi le ton, est-ce que c'était plus positif, plus négatif. Okay. Puis là, finalement, on fait ça, puis on va chercher aussi toutes les données de parlement, là, comme on a le Parlement de l'Union européenne, on a le Parlement du Québec, évidemment, l'Assemblée nationale, on a le Parlement du Canada avec d'autres types de provinces comme ça. Puis l'idée, c'est de pouvoir marier éventuellement les données de Radar Plus et d'Agora Plus, et peut-être des données de citoyens qui proviennent de Datagotchi ou ailleurs, pour pouvoir vraiment avoir une vision en 360 de la démocratie. Là.
Les partis politiques doivent halluciner sur vos outils.
Je pense qu'il y a un intérêt, oui. Ouais. Il y a un intérêt. Nous, on ne fait jamais de politique partisane, mais tout ce qu'on fait, en fait, c'est dans le cadre de transfert de connaissances publiques. Donc, on met tous nos données, non, ça dépend de lesquelles, si elles sont confidentielles, non, mais les données agrégées, par contre, quand on en fait, pour pouvoir faire des analyses, pour pouvoir mieux comprendre la société canadienne, la société québécoise, mais sont toujours disponibles. Donc, si les partis politiques les consultent, ils ont le droit de les consulter, mais c'est surtout pour les citoyens qu'on fait ça. Là.
OK. Puis qui paye pour ces outils-là? C'est vraiment l'Université Laval?
Mais ça dépend. Des fois, il y a des partenariats. Tu sais, ouais. Comme là, en ce moment, le Datagotchi, on le fait avec la firme Léger. Mm-hmm. Donc, il y a quelques partenariats comme ça qui se font. La boussole électorale, mais c'est avec Radio-Canada. Donc, il y a un petit peu de sous qui c'était... Mais il y a beaucoup de ressources là-dedans qui sont humaines aussi. Parce qu'il y a de la formation étudiante. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent de la formation étudiante. Puis, il y a des subventions aussi qui viennent de recherche. Parce que toutes ces données-là, bien oui, ils vont être traitées. Puis, ils vont déboucher sur des articles scientifiques qui vont faire avancer les connaissances. Donc, on va chercher des subventions aussi.
Fait que ça marche bien, là.
Ça marche bien, oui. Tout ça marche très bien. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de coordination. Vous êtes capable de vous imaginer, on est dans le public quand même. Là. L'université est régie par des services d'approvisionnement, etc. Donc, l'éthique aussi, le comité d'éthique. Tout ça, toute la gestion des données, etc., etc., etc. C'est des gros projets, mais ça marche bien. Ça.
Moi, le dernier me fascine beaucoup parce que c'est toujours des questions que je me suis posées. Oui. Parce qu'on a une tendance à suivre beaucoup, beaucoup, tu sais, les différentes campagnes. Puis ben là, je vais parler pour moi, en fait, mais tu sais, les débuts, quand on a enfin là, un premier ministre, là, je vais suivre beaucoup les débuts de ce qui est promis, de ce qui est réalisé. Puis à un moment donné, bien, je veux dire, il y a tellement d'actualités, ça va tellement vite que t'en perds un peu le fil, puis tu sais plus au bout de 3 ans qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui l'a pas été. Puis t'es un peu mêlé dans tout ça. Puis vous avez créé le Polymède, qui est un site qui recense toutes les promesses d'un gouvernement, puis qui suit la réalisation de ces promesses.
Ça, je pense que c'est l'outil que le politicien craint le plus.
Mais certainement, mais moi, je trouve que c'est l'affaire la plus fantastique pour un simple citoyen qui veut se diriger aussi. Si, mettons, toi, tu votes libéral depuis des années et des années, puis tu te rends compte en allant sur le Polymède que tabarnouche, ils réalisent jamais leurs promesses, c'est de la chenoute, finalement, bien peut-être que ça peut te diriger ailleurs.
Non, absolument. Puis le Polymède, ça a été créé justement à l'Université Laval par feu François Pétry, là, un professeur vraiment éminent de notre faculté. Puis moi, j'ai pris la direction du Centre d'analyse des politiques publiques. Puis ça, c'était dans ce giron-là. Mais tu sais, c'était à la base, c'était vraiment plus académique, là, avec des tableaux. Puis des fois, on les mettait publics un peu. Puis on a fait un partenariat avec Vox Poplab, qui est la firme maintenant qui gère la boussole électorale, pour en faire un site le plus ludique possible. Mm. Puis c'est quand même un sujet, là, vous venez de le dire, assez lourd. Là.
Oui.
Donc, mais là, on décortique ça. C'est énormément de travail. Puis comme tu disais tout à l'heure, les politiciens, mais ils regardent ça. Là. C'est certain qu'ils regardent ça, ils voient ça, mais le but, c'est de le rendre le plus digeste possible pour les citoyens. Mm. Parce qu'il y en a des promesses, là, je dis, des fois, c'est 300-400.
Oui.
Nous, on regarde les 300-400, on évalue ça une par une, puis on suit l'état de réalisation.
Mais les graphiques sont très clairs.
Vraiment. Ouais. Les mises à jour sont-tu faites vraiment chaque jour?
Non, pas chaque jour, parce que c'est beaucoup de travail, mais par contre, à chaque semaine, les étudiants travaillent dessus, puis à un moment donné, on est prêt pour faire une mise à jour, puis on vient de faire, je pense, une nouvelle mise
oui,
à jour.
Oui, parce qu'ici, j'ai 2 avril 2025, là, je trouvais qu'on était pas mal dessus, puis c'est le fun parce que tu peux carrément aller sélectionner aussi tes intérêts personnels. Mm-hmm. Tu sais, je regarde éducation, immigration, loi et crimes, santé, politique sociale, technologie, tu peux regarder aussi, bon, en voie de réalisation, ce qui est déjà réalisé, partiellement réalisé, ce qui a été carrément rompu. Fait que c'est vraiment bien fait. Il y a les graphiques, puis t'as toute l'information qui est en dessous aussi. Là. Fait que t'es capable d'aller voir exactement ce qui avait été promis, puis où est-ce que ça en est. Moi, tu vois, c'est probablement mon préféré de la gang à date. Là.
Bon, parfait. Puis je veux dire, tout le monde y a accès avec le polymètre.org. Hein. Ils peuvent aller sur le site.
Polymètre.org. Est-ce que vous le faites pour le municipal, le provincial et le fédéral aussi?
On le fait pour le provincial, pas pour le municipal. Parce que là, le municipal, ça a toujours été, même pour la boussole, même pour Datagotchi, on a toujours eu un intérêt. On l'a fait une fois pour Toronto avec Toronto Star, mais c'est comme quelle ville qu'on choisit. Parce qu'on commence à faire toutes les villes du Québec, ça commence à devenir...
Vous en sortirez pas, là.
Non. carrément non.
Puis d'un point de vue plus personnel, toi qui travailles sur ces outils-là depuis des années, quand les élections arrivent, tu fais-tu un choix plus éclairé qu'avant? Ou tu es un peu plus mêlé qu'avant? Parce que là, je veux dire, avec tous ces outils-là, tu dis, OK, attends un peu, là, c'est-tu correct? Pour qui je vais voter? Puis tu fais comment aujourd'hui?
Mais nous, on est tellement là-dedans. Puis je parle de nous, les politologues, les gens qui sont dedans. Même, je pourrais même rentrer les gens dans la bulle politique dont vous faites partie aussi, là, les journalistes. C'est sûr que c'est plus mêlé. Parce qu'on voit plus de nuances. Et souvent, il y a moins d'heuristiques, de raccourcis, où est-ce qu'on voit des choses en rouge et bleu ou en noir et blanc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Donc, c'est certain que d'un point de vue personnel, quand je mets mon chapeau de citoyen, c'est un peu plus compliqué qu'avant que je me mette vraiment là-dedans et que j'en fasse un métier.
Parce que pour faire un choix éclairé, il faut que tu laisses tomber tes émotions.
Mm.
Fait que si toi, il y a un politicien ou une politicienne que t'es pas capable de sentir, puis finalement, avec tous les outils, ça te dit que c'est ce parti-là pour lequel tu pourrais voter selon tes intérêts, je trouve ça, des fois, ça peut être... C'est confrontant, là.
Mais tu sais qu'est-ce que je dis à mes étudiants, tu sais, toujours, je dis comme... un des outils d'analyse là, puis d'interprétation politique le plus puissant, c'est l'empathie. T'sais. Puis seul, c'est de se mettre dans les souliers d'un autre. Puis moi, c'est ma job à moi de me mettre dans les souliers d'un autre. Dans Tagotchi, c'est un peu ça l'idée aussi. Oui, je peux me construire moi, Yannick Dufresne, mais à la fin, on peut même changer certaines variables. Donc, je peux mettre moi, Yannick Dufresne, mais là, je me mets comme minorité visible, je me mets comme femme, puis là, je vois l'effet que ça a sur le vote. J'essaie de comprendre l'autre. Puis quand c'est notre job de faire ça, de se mettre dans la peau de l'autre, dans les souliers de l'autre, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de total imbéciles. C'est des gens avec des intérêts, qui sont dans des endroits différents de la société, qui ont différents types de jobs, puis c'est normal qu'ils votent.
Avec des expériences différentes.
Exactement. Puis ça, c'est la compréhension, c'est l'empathie. Peut-être que c'est ça qu'on a besoin de plus aussi dans une ère de polarisation comme aujourd'hui. Là.
Est-ce qu'il y a d'autres outils sur lesquels vous travaillez, M. Yannick Dufresne?
Je vais dire non. Pour vrai, parce
t'as pas trouvé de temps libre entre 2h et 3h du matin?
Il y a 5 plateformes en ce moment qui sont actives. Là. C'est quand même beaucoup.
Il y en a un gros projet, mais qui essaie de relier un peu tous ces projets-là. C'est la vitrine démocratique qu'on veut lancer peut-être avant la fin de la campagne ou juste après. Mais ça va être une vitrine où est-ce que les gens vont pouvoir aller voir des éléments agrégés, disons, du Polymètre, des éléments agrégés d'Agora Plus, de Radar Plus. Donc ça, on y travaille. Mais en même temps, c'est comme plus une consolidation des projets actuels que de lancer un nouveau projet totalement nouveau. Là.
Ben, je te le souhaite parce que je veux dire, c'est des outils qui aident les citoyens. On va juste répéter, Audrey et Yannick, les adresses là, pour rejoindre les fameux outils, pour avoir un choix éclairé pour les prochaines élections. Boussole électorale, c'est sur le site de Radio-Canada.
Mm-hmm.
Par la suite, Datagotchi.
Datagotchi.com.
Datagotchi.com. Radar Plus.
Il y a Radar Plus, si vous allez sur le site de laclésn.com, il y a un lien vers le Radar Plus, mais c'est surtout sur les médias sociaux en ce moment.
Agora Plus.
Agora Plus, la même chose.
Polymètre.
Polymètre, polymètre.org.
Très cool. Un gros merci d'être venu en studio, Yannick Dufresne, puis lâche pas tes étudiants, ça a du potentiel?
Beaucoup de potentiel, ils travaillent fort.
Imagine qu'ils disent non, ben, pas tant, mauvaise cohorte.
Ils font quoi quand ils sortent de cette cohorte-là?
Ah, ils font plein de trucs. Il y en a une, ma première étudiante est devenue professeure à l'Université Laval. C'est elle, d'ailleurs, la professeure qui est en charge de Tagotchi à l'Université de Montréal, Catherine Ouellette. Mais plusieurs, tu sais, moi, ça fait pas si longtemps que ça, là, ça fait 6-7 ans. Donc, la plupart des gens sont au doctorat en ce moment, plusieurs à l'extérieur du Québec. Ouais.
Puis ils vont faire quoi comme job après?
Ils veulent devenir professeurs puis chercheurs dans la plupart, mais plusieurs même qui ont des idées d'entrepreneuriat en analyse de données avec l'IA. C'est le type d'emploi qu'on peut développer aussi.
Ouais. Y a-t-il beaucoup de compétition à l'interne chez ces étudiants-là?
Pas tant, non, au contraire. Puis je dis, moi, j'essaie d'imposer vraiment cette culture-là d'entraide. Là. Je me dis tout le temps, l'égoïsme est un manque d'imagination. Là. On peut tellement aller plus loin si on rame tous ensemble dans le même bateau. Là. Puis je pense que ça, cette culture-là, du moins, moi, je parle pour moi, là, puis dans mon groupe de recherche, mon centre de recherche, dans ma chaire, c'est vraiment une culture qui est très, très, très établie. Là.
Très cool. Yannick Dufresne, professeur à l'Université Laval dans la faculté sciences sociales et fondateur, entre autres, du fameux Datagotchi. Un gros merci d'être passé.
Et merci tellement de l'invitation.
On se reparlera dans quelques mois.
Ouais, absolument.
Oh, il va peut-être avoir des élections à un moment donné, là.
Ben, moi, je trouve que ça va valoir la peine. Puis vous êtes plusieurs en passant, autant sur le Twitch qu'au 971-1021, à demander les sites. Puis je vais tout mettre ça sur les réseaux sociaux, je pense.
Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Est-ce que tu pourrais faire ces outils-là pour les États-Unis?
On a fait un Datagotchi aux États-Unis. Ouais. Il y a eu une boussole électorale aux États-Unis aussi. Donc, si l'auditeur veut m'écrire, je pourrais lui envoyer les liens. Ils sont encore en ligne.
Ah, c'est très cool. Un gros merci. 11h06, vous avez des choses à nous dire. Il se passe quoi que ce soit sur la route. 418-971-1021. 418-971-1021. Rage against le matin.